Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Du 26 juin au 5 juillet 2015 a eu lieu la 36e édition du Festival international de jazz de Montréal et nous vous proposons cette semaine le deuxième épisode de notre escapade québécoise en compagnie tout à l'heure d'André Ménard qui nous racontera l'épopée de ce rendez-vous culturel majeur du continent nord-américain. Mais tout de suite, et avec un brin de fierté, nous allons découvrir les propos du bassiste Stanley Clark, pilier du jazz funk des années 70 et véritable virtuose de la musique populaire noire américaine depuis 40 ans. Il nous a accordé une longue interview le 27 juin dernier à Montréal, à l'occasion de son concert au théâtre Maisonneuve, durant lequel il a présenté son nouveau groupe et son nouvel album Up, dont voici un premier extrait. Cette humeur soul funk inspirée de Papa's Got a Brand New Bag de James Brown provient du nouvel album de Stanley Clark que nous sommes heureux de retrouver ici à Montréal. Merci de nous accorder quelques minutes de votre temps.
Okay, it's good to be here. I'm happy to be here at the Montreal Jazz Festival.
Je suis très heureux d'être ici au Festival Jazz de Montréal, qui est l'un des 5 ou 6 meilleurs festivals au monde, à mon avis.
Really good festivals, you know, and this is one of them, you know.
Peut-on dire que Up, votre dernier album, résume vos diverses influences musicales, de la soul à la fusion, du Brésil à Charles Mingus?
Oui, je suis d'accord. Comme je le précisais à l'un de vos confrères, l'album Up, contrairement à l'époque où il fallait formater les œuvres pour la radio, a été réalisé sans aucune pression, juste entre amis. Chaque musicien qui apparaît sur ce disque est un ami de longue date, et comme chacun d'eux vient d'un un univers sonore différent du mien, de la pop, du rock, du rhythm and blues. Ce fut un réel plaisir de me confronter à eux. Le premier titre que nous avons enregistré faisait appel à la virtuosité de Stewart Copeland, l'ancien batteur du groupe Police. Il voulait que je vienne en studio avec ma contrebasse et nous avons travaillé dans une ambiance très positive. Il faut dire que je le connais depuis bien longtemps, avant même qu'il ne devienne le batteur de Police. Il se trouve que nous vivons dans le même quartier, nous déjeunons souvent ensemble et nous partageons nos vieux souvenirs, nos souvenirs de guerre.
Talk old stories, old war stories.
J'ai ouï dire que vous étiez également un grand amateur de musique classique, et notamment de Jean-Sébastien Bach. Que vous ont apporté vos études classiques ?
Well, you know, Bach was, he was, to me, Bach was kind of, in my opinion, this may sound strange, but he was kind of like the jazz musician at that time, because...
Cela va vous sembler étrange, mais j'ai toujours considéré Jean-Sébastien Bach comme un musicien de jazz du XVIIIe siècle. Il a écrit des compositions dans lesquelles on peut déceler une part d'improvisation. Ce n'était pas que de simples mélodies, il était le Charlie Parker de l'époque. Il inventait des changements d'accords inédits pour son temps. Si vous écoutez attentivement et si vous étudiez ses œuvres, vous découvrirez le génie de cet homme. J'ai toujours aimé sa musique et j'ai d'ailleurs enregistré récemment une suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Vos auditeurs seront surpris par mon jeu à la basse sur ce répertoire-là. J'ai essayé de respecter la tonalité originale et je dois dire que le résultat est plutôt réussi. J'aime tellement Jean-Sébastien Bach.
And I did it in the original key, and it sounds very good in a very nice setting. And I love Bach. Yeah.
La dernière fois que nous nous sommes rencontrés à Paris, vous veniez de faire paraître l'album Virtue, très jazz rock. Diriez-vous que ce qu'on a appelé la fusion est un art aussi exigeant que la musique classique?
I think in fusion music or jazz fusion, it had a couple names: jazz rock, jazz fusion, whatever.
Je suis assez d'accord avec vous. Je dirais que ce qu'on a appelé la fusion, ou le jazz rock, était constitué, comme le classique, de compositions exigeantes qui demandaient une technique particulière et un savoir-faire de la part des instrumentistes. Ce genre musical, né dans les années 70, demandait une concentration intense des musiciens, notamment sur scène. Quand je jouais dans le groupe Return to Forever, il me fallait être très attentif lors de nos prestations. Il fallait avoir une bonne mémoire. C'était comme interpréter le Sacre du printemps de Stravinsky sans partition. Il fallait se souvenir de chaque note, de chaque mélodie. Nous avions des compositions très longues qu'il fallait impérativement connaître par cœur pour pouvoir les jouer en public. Ça nous a pris du temps de tout mémoriser, mais nous y sommes parvenus.
Sur votre dernier album, Up, il y a une nouvelle version de School Days. Pourquoi avoir réenregistré votre plus grand standard ?
Well, to be honest, because many guitar players have asked me to play on that song. Man, can I play on it live? Can I?
Pour être honnête, c'est à la demande de plusieurs guitaristes qui insistaient pour enregistrer avec moi ce titre historique ou qui voulaient le jouer avec moi sur scène. J'ai donc accepté que l'un d'eux, Jimmy Herring, qui a un vrai talent, apparaisse sur cette nouvelle version. De plus, j'ai une approche assez différente de celle des musiciens de rock. Dans le rock, lorsque vous avez réussi à placer un standard dans les hit parades, il devient intouchable. Mais les musiciens de jazz réfléchissent autrement. Miles Davis a enregistré des dizaines de fois ses grands succès. So What a été interprété maintes fois. Les œuvres de John Coltrane également. La tradition du jazz veut que l'on s'empare d'un grand classique et qu'on le fasse constamment évoluer. Une composition jazz est souvent un prétexte pour développer sa propre inspiration. Et si l'un de vos titres devient un standard, tant mieux. Vous continuerez à le jouer de toute façon. Je me souviens en tout cas parfaitement du jour où j'ai écrit School Days. Cela m'a pris 10 minutes. Je regardais à la télévision la cérémonie des Grammy Awards, le groupe Return to Forever venait de remporter un prix et j'étais très heureux pour mes camarades. Ella Fitzgerald et Mel Tormé avaient pour mission d'annoncer le nom des gagnants, sauf que Mel Tormé a présenté Chuck Corea au lieu de Chick Corea. C'était Ella Fitzgerald qui a rectifié. J'étais mort de rire. Je me suis dit, certains devraient retourner à l'école, d'où le titre School Days. Je suis parti me coucher avec ma basse à la main et en jouant dessus, j'ai sorti inconsciemment ce gimmick devenu célèbre. Le lendemain matin, j'ai achevé cette composition et le tour était joué. Je l'ai enregistré un mois plus tard. Ce fut mon plus grand succès et un bon moyen pour donner une autre image de la basse dans l'univers du jazz.
Thank you.
Stanley Clarke en 2015 sur l'album Up. Stanley Clarke, vous avez joué avec un nombre incroyable de sommités, de Aretha Franklin à Sonny Rollins, Art Blakey, Al Jarreau, Michael Jackson, Carlos Santana, mais aussi, j'aimerais que nous parlions de George Duke. Vous lui rendez hommage sur votre dernier album. Quel souvenir de l'artiste et de l'homme garderez-vous de lui?
Well, as a man, he was like a big brother to me, George. He was, I met George in 1971-72.
George Duke, c'était un peu mon grand frère. Je l'ai rencontré en 71 ou 72 en Finlande. C'était un personnage toujours positif et joyeux. Nous étions vraiment de bons amis. En tant que musicien, il faisait partie de ces artistes totalement polyvalents. C'était un grand pianiste, il était aussi un excellent tromboniste, ce que peu de gens savent. Il avait d'ailleurs commencé sa carrière au trombone avant de s'intéresser au piano. C'était un enseignant de grande valeur. Il était arrangeur, compositeur, interprète. Il était capable de réunir une cinquantaine d'artistes pour un show télévisé en l'espace de quelques heures et de leur écrire les arrangements des chansons qu'ils devaient interpréter devant les caméras. C'était un grand producteur. C'était un homme aux multiples talents. Il enregistrait des disques, donnait des concerts, mais également travaillait dans l'ombre. Il composait pour le cinéma. C'était un artiste complet. Quel que soit le contexte, il excellait.
Quand vous réécoutez vos œuvres en commun, quelle oreille avez-vous sur ce travail? Est-ce qu'il est daté ou est-ce qu'il est toujours d'actualité?
Vous savez, je ne passe pas mon temps à écouter mes œuvres passées, sûrement parce que je redoute d'être vieux jeu. Mais quand George Duke nous a quittés, j'ai fait l'effort de poser une oreille sur notre travail commun et cela ne m'a pas paru trop dépassé. Parfois, je prends plaisir à me remémorer les séances d'enregistrement des disques que je redécouvre. Et puis le jazz est une forme d'expression toujours en avance. Par conséquent, un vieil enregistrement ne sera pas forcément démodé.
Ma question était plus précise. Prenez-vous toujours du plaisir, par exemple, à réécouter Wild Dog ou Louie Louie que vous aviez enregistré avec George Duke en 1981?
I remember Louie Louie was a big song over here. We used to come here and hear it in the discos, you know.
Ce dont je me souviens en tout cas, c'est que notre version de Louie Louie a fait un carton ici en Amérique du Nord. On entendait notre enregistrement dans les clubs disco. Ce premier disque que nous avions réalisé en commun, avec notamment le titre White Dog, est devenu un classique du funk. C'était un grand disque finalement.
Stanley Clarke, revenons à aujourd'hui. Vous êtes très bien entouré sur votre dernier album. Est-ce que vous pouvez nous présenter les célèbres musiciens qui vous accompagnent?
Well, let's see, on the new record, well, I mentioned Stuart Copeland is there from the Police, old friend of mine. Joe Walsh from the Eagles plays there, really old friend of mine.
Alors, sur le nouvel album, j'ai réuni Stewart Copeland, que je citais tout à l'heure, ancien batteur de Police et grand ami, Joey Walsh, le guitariste et chanteur des Eagles, également un grand ami. J'ai aussi recruté un jeune batteur de Dallas, Mike Mitchell, il m'accompagne d'ailleurs dans ma tournée estivale. J'ai par ailleurs à mes côtés sur ce disque la section rythmique des albums de Michael Jackson, à savoir John Robinson à la batterie, Greg Finnegans au piano et Paul Jackson Jr. à la guitare. C'était un vrai plaisir d'enregistrer avec ces trois talentueux musiciens. Ils savent tout jouer. Quel que soit le répertoire, il n'y a rien à retoucher. Vous obtenez avec eux instantanément le son d'un disque professionnel. Ils sont capables de rendre audible une musique qui ne l'est pas. Nous avons enregistré ensemble le titre Pop Virgil, que vous avez entendu en début d'émission. C'était un grand moment. J'oublie sûrement quelqu'un. Ah oui, Jerry Brown, le batteur originel de l'album School Days. J'ai donc réuni des gens bien pour ce disque.
Stanley Clarke, le 30 juin, c'était votre anniversaire. Qu'avez-vous demandé comme cadeau?
You know what, man? Last year, I wanted a gift.
Je vais vous dire, l'année dernière, je voulais un cadeau bien particulier que j'ai finalement acheté moi-même. Il se trouve que j'adore les voitures de course et j'avais demandé à ma femme de m'en offrir une. Elle m'a immédiatement répondu, tu es trop vieux pour ce genre de jouet. Il est vrai que j'ai souvent flirté avec le danger en conduisant des Mercedes ou des Toyota GT. J'ai pourtant insisté et je lui ai dit, tu sais ce qui me ferait plaisir? Une Chevrolet Corvette. Ma fille m'avait mis cette idée dans le crâne en m'offrant il y a quelques années un modèle réduit de la Chevrolet Corvette à monter soi-même. Et enfin, l'année dernière, ma femme a craqué, ok, va te choisir ta Corvette. J'ai donc depuis un an une voiture de course, une Chevrolet Corvette rouge. Mais désormais, il faut juste que j'évite de me faire choper par les flics.
And it's red, so now I just have to worry about not being stopped by the police.
Ha ha ha. Quoi qu'il en soit, permettez-moi de vous souhaiter un joyeux anniversaire et merci pour cette interview.
Good. Thank you. It's good to talk to you and thank you so much, my friend. Okay.
C'est le nom de l'album, mais c'est aussi le titre du morceau que vous venez d'entendre signé Stanley Clark et qui clôt momentanément notre détour par Montréal, puisque nous allons nous retrouver dans quelques instants en compagnie d'André Ménard, directeur artistique du Festival international de jazz de Montréal, qui nous contera avec force anecdotes et souvenirs croustillants l'épopée de cette manifestation prestigieuse. C'est dans 3 minutes, juste après un nouveau point sur l'actualité. À tout de suite.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer.
It don't mean a thing.
Nathalie Laporte.
If it ain't got that swing.
Jigida, kani jigi misenya, omani, kobena.
L'épopée des musiques noires.
It's okay. You know, it's okay.
Oh, merci.
Comme il est triste de devoir quitter Montréal après avoir vécu du 26 juin au 5 juillet la 36e édition du Festival international de jazz, mais pour faire durer le plaisir, nous avons demandé à André Ménard, directeur artistique de cette imposante manifestation, de se retourner sur le passé et de nous conter son aventure au cœur des musiques noires depuis 35 ans. Ce monsieur a rencontré et programmé les plus grands artistes, de Miles Davis à Prince, de Morricone à Ella Fitzgerald, en passant par Tiken Jaffa-Coli, B.B. King, Luther Allison ou encore James Cotton, une légende de l'harmonica, une légende du blues, une part d'histoire qui a ouvert l'édition 2015 en donnant un concert vivifiant malgré son grand âge. James Cotton a fêté son 80e anniversaire le 1er juillet dernier.
I was down in the county jail, blowing my harmonica in my cell. I'd like to make that harmonica choke. It does a thing to the folks. Me and my harp, we begin to sweat. Hey man, you ain't seen nothing yet. I'd like to make my harmonica whine. Your wife's gonna forget that I'm doing time a super hard. A super hop, a super hop, I blow up a super hop. The prisons and the guards are all clapping. Me and my harmonica's showing off rapping. I'm gonna make my harmonica grunt. I'm blowing up a super funk. I blow this hop jelly, shake like jelly. I have the rats dancing in the alley. And when I blow, you'll jump like a monkey. When I'm blowing, you know it. The show is fucking super hot. A super hot. A super hot. A super hot.
Comme annoncé plus haut, James Cotton, qui a reçu le prix B.B. King ici à Montréal, a livré une joyeuse prestation le 27 juin dernier grâce aux efforts d'André Ménard, directeur artistique du Festival international de jazz de Montréal, que nous sommes enchantés d'avoir à notre micro. Merci d'être avec nous.
Ça me fait plaisir.
Alors, c'est la 36e édition de ce rendez-vous musical majeur. Est-ce que la proximité des États-Unis facilite l'élaboration de la programmation ?
C'est-à-dire que ça pourrait être le cas, mais on se fait quand même un principe, une loi presque, de ne pas faire du Festival de Montréal un festival programmé comme les festivals américains, qui eux sont très centrés sur des musiciens américains. Nous, évidemment, on fait beaucoup de musiciens américains. Il y a cette proximité, il y a cette proximité du public américain aussi. Mais la spécialité, la couleur de Montréal, c'est d'avoir justement beaucoup de musiciens qui viennent de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de l'Amérique centrale et de l'Asie aussi. De cette façon, ça nous permet de présenter des musiciens ici pour la première fois sur le continent américain, comme on l'a fait avec Richard Galliano il y a 20 ans à Montréal et qui est revenu très souvent depuis. Ici, les Américains peuvent venir voir des choses qu'ils ne verraient pas à New York. En plus d'évidemment voir tout ce qu'il y a à New York pendant l'année, mais oui, ici, ça se passe en 10 jours. Donc, c'est un avantage pour le festival d'avoir la proximité des États-Unis, mais en même temps, on ne fait pas notre beurre de cet avantage. On essaie de dépasser un peu la facilité que ça serait de n'avoir que des artistes américains.
Dans l'épopée des musiques noires, nous évoquons toute la diaspora noire dans le monde. Est-ce que le Festival Jazz de Montréal donne une place de choix à la culture noire?
Évidemment, écoutez, le concert d'ouverture du festival, qui n'en avait qu'une douzaine de manifestations la première année, c'était avec Ray Charles. Et il y avait Ramsey Lewis au programme aussi. Et il y avait un brass band de New Orleans, de Jean Olympia Brass Band. Donc, dans le code génétique du festival, c'est sûr que la musique noire tient une place très importante. Et à travers les années, on a beaucoup diversifié. On a fait du reggae, la musique avec les Africains, comme par exemple, dans les premières années, il y avait Pierre Akendengue qui est venu. Il y avait Turi Kunda, qui sont venus souvent aussi. Et Oscar Peterson est un natif de Montréal, de la communauté noire de Montréal, ainsi qu'Oliver Jones. Ce sont nos deux pianistes emblématiques. Ils ont participé au festival très souvent aussi. On les a même fait collaborer, parce qu'il faut savoir qu'Oliver Jones a été éduqué musicalement par la sœur d'Oscar. Donc, c'était deux amis, mais qui n'avaient jamais joué ensemble sur scène. On leur a fait faire le duo un soir. Donc, oui, c'est des moments importants dans notre histoire, dans l'anthologie de nos bons moments. Mais c'est aussi, je pense, par nature même, la musique noire tient une place importante au Festival de jazz. À travers les années, on a fait beaucoup de groupes d'Afrique du Sud et d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique du Nord, évidemment.
Abdoulaye Ibrahim, d'ailleurs, jouait il y a peu oui. au festival. D'ailleurs, c'était l'un des derniers concerts du festival cette année.
Il a fait un solo un soir, le lendemain, il a fait un trio, et le surlendemain, il a fait le septet. C'était un des invités d'honneur de la série qu'on appelle justement Invitation. Et évidemment qu'Abdoulaye Ibrahim n'a plus à faire ses preuves, mais il est encore un excellent pianiste et un très grand créateur.
Un spectateur me parlait dans la rue récemment d'un concert magistral de Morricone. Est-ce que vous vous souvenez de ça?
Oui, je crois que c'était celui au Spectrum. On a fait Morricone aussi sur la rue une fois, un peu plus tard. Mais la première fois qu'il est venu, c'était au Spectrum, une salle défunte de la rue Sainte-Catherine qui était juste en face de la maison du Festival de jazz. Et oui, ça avait été un concert, une vraie folie. Quand on dit que les gens dansaient sur les tables, c'était vrai cette fois-là. J'avais peur qu'il y ait un accident dans la salle, justement. Mais tout le monde était partout, c'était bondé. C'était vraiment c'était un concert mémorable.
C'était l'époque de Yeke Yeke?
Oui, forcément. Oui, c'est le disque sur lequel il y avait Yeke Yeke qui l'a propulsé sur les scènes du monde. Et oui, c'est un artiste dont je me rappelle toujours de ce passage avec beaucoup de chaleur. Et évidemment, le spectacle à l'extérieur aussi. Mais il n'était pas au jazz, il était au francophonie celui-là, qui était très bon aussi.
Écoutons le tube planétaire de Morricone, Yeke Yeke. Yeke Yeke, Morricone en 1987. Nous sommes avec André Ménard, directeur artistique du Festival international de jazz de Montréal, qui nous fait l'honneur de nous accueillir. En 35 ans de festival, vous avez forcément dû supporter les caprices de certains musiciens. Quelles sont les demandes les plus farfelues que vous ayez eues ?
On n'a pas vraiment beaucoup de demandes farfelues, mais bon, par exemple, Prince ne s'appelait pas Prince pour rien. Il faisait deux soirs au Metropolis, c'était une espèce de tour de chauffe qu'il faisait avec ses musiciens avant d'aller faire le Stade de France il y a quelques années. Deux concerts de 4 heures en pleine nuit, c'était fantastique. D'ailleurs, j'avais dû prévenir la police que j'étais pour dépasser les heures légales d'ouverture. Il m'avait dit, bon, pour Prince, ça va aller, on fera pas d'histoire. Et il nous avait demandé de décorer la loge avec une thématique Afrique du Nord un peu, soupe marocaine. Et finalement, après le premier concert, j'ai dit, vous me défaites tout ça. Moi, je m'étais dit, bon, ça a coûté un peu cher pour faire ça, mais on gardera cette déco pour le reste du festival, parce que Prince se produisait en ouverture du festival. Et finalement, ben, après un soir d'utilisation, ça lui plaisait plus, il nous a fait défaire. Donc, on peut appeler ça un caprice, oui. Mais sinon, les artistes sont plutôt raisonnables, en général, ceux avec qui on fait affaire, en tout cas. Peut-être que si on faisait affaire avec les grandes rock stars, ça serait différent, mais dans notre cas, nous, ça pose pas de problème.
Comment répond-on aux exigences de personnalité musicale ? Par un flegme britannique, par l'humour français ou par la rigueur germanique, je dirais ?
Ben, vous savez, Montréal, culturellement, c'est un carrefour. Donc, on est un peu au carrefour de l'Amérique et de l'Europe. Je crois qu'on essaie d'y mettre un certain sens de l'organisation, le cartésianisme des Américains. Mais en même temps, on essaie aussi de montrer aux artistes le respect qui leur revient. Et on les traite pas comme une marchandise. On les traite comme des êtres humains. On essaie de bien les encadrer pour que, jusqu'à leur concert, tout se passe bien. Après, ce qu'ils veulent faire, ça les regarde. Mais au moins, de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, jusqu'au concert et tout, tout est réglé au quart de tour. On est à leur service. S'il y a des urgences, on les accompagne là-dedans aussi. Donc, on a une approche qui est très, je dirais, humaniste et fonctionnelle.
Nombre de concerts ont eu lieu ici. Vous avez forcément à l'esprit des prestations historiques?
C'est sûr que pour moi, les 4 fois où Miles Davis s'est produit au Festival de jazz, et une 5e fois dans le Spectrum, après ses participations au Festival de jazz, l'année avant qu'il ne meure, en 1990, les prestations de Miles Davis sont toujours pour moi des très très grands souvenirs. Sinon, Ella Fitzgerald aussi. Je la connaissais sur disque, je savais comment elle avait cette aisance à chanter, cette joie de vivre et tout, mais à son contact, il y avait tellement d'humanité en elle, elle était tellement gentille en plus, ça augmentait l'admiration que je pouvais avoir pour elle. Et ça, vraiment, j'oublierai jamais les 2 concerts avec Ella Fitzgerald. Ça reste gravé dans ma mémoire et dans celle du festival pour, je crois, le reste des temps.
Je me souviens d'une prestation du bluesman Luther Ellison en 1997. Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Oui, c'était une de ses dernières apparitions sur scène. C'est un beau souvenir, c'était au Metropolis, une salle que j'opère maintenant. Et ça m'est toujours resté comme... Je sais pas, il n'y avait rien de prémonitoire dans ce show, mais sa présence était lumineuse, brillante. C'était un homme en paix, qui faisait très très bien ce qu'il avait à faire. Et sa mort m'a d'autant plus surpris. Et je sais pas si j'aurais dû décoder ce soir-là qu'il y avait un truc pareil qui s'en venait, mais il y avait une espèce de magie un peu mélancolique dans tout ça. Mais je voyais qu'il était quand même heureux du chemin parcouru. Il était heureux de voir le public aussi nombreux pour lui. C'est difficile à définir comme souvenir, mais il me reste une espèce d'ambiance, une espèce de climat qu'il y avait dans la salle ce soir-là, qui m'est revenu quand j'ai appris sa mort quelques jours après. C'est drôle. T'sais. J'avais senti une drôle de présence dans son spectacle. Comme s'il avait déjà un pied dans l'au-delà. Sans la maladresse de quelqu'un qui est en fin de vie. On ne pouvait pas voir qu'il est en fin de vie. Comme la plupart des musiciens de blues, de toute façon, on peut toujours croire qu'ils sont un peu dépressifs parce qu'ils chantent le blues et tout, mais c'est pas vraiment le cas. Avec B.B. King, c'est pareil aussi. C'est toujours la joie. Il y avait toujours une petite répartie drôle à me donner et tout. Il m'appelait par mon nom de famille, ce que je laisse pas grand monde faire, mais B.B. King, c'est le roi aussi, alors voilà. Il m'appelait « Hey, Maynard! » Non, j'ai dû présenter B.B. King au moins 30 fois dans ma vie. T'sais. Luther Ellison, moi, mais la semaine dernière, James Cotton aussi, pareil. On l'avait fait au premier festival en 1980, sur la même scène où, cette journée-là, on avait présenté B.B. King, Muddy Waters, John Lee Hooker, Coco Taylor, Blind John Davis, très grand concert de blues. Et ironiquement, là, il revenait pour recevoir le premier prix B.B. King, et... Je trouvais qu'il y avait là-dedans une espèce d'image de boucle qui se fermait. Mais lui, pas du tout. Il nous dit, en 2017, mon groupe va exister depuis 40 ans. J'aimerais bien revenir dans 2 ans. Alors, il se faisait déjà programmer pour dans 2 ans. Chose qu'on va faire avec plaisir.
Je vous propose d'écouter B.B. King tout de suite. Une manière de lui rendre hommage, puisqu'il nous a quittés le 14 mai dernier. L'un de ses derniers concerts a eu lieu ici, à Montréal.
Oui, mais... La tournée d'an dernier, malheureusement, on voyait qu'il avait plus envie de jouer. Ça a été assez désastreux. Il y a du public qui voulait se faire rembourser et tout. Donc, je savais très bien qu'il ne reviendrait pas. C'était un peu crépusculaire quoi, comme ambiance. Il a arrêté les tournées un mois plus tard et vous voyez, ça a été un de ses derniers concerts, mais il jouait The Trill Is Gone par petits bouts, il essayait de faire chanter le public You Are My Sunshine, qui n'est pas tout à fait une chanson de B.B. King. C'était un peu triste comme fin. T'sais. Mais on savait qu'il avait l'intention de mourir sur des planches. Il l'avait dit depuis longtemps, depuis toujours. Donc, il ne fallait pas se surprendre qu'il étire la sauce de la sorte jusqu'à la fin, puisqu'il s'était toujours promis de le faire. Mais de le voir, c'était quand même pas tout à fait le souvenir qu'on voulait garder. Le souvenir que je garde de lui, c'était un homme d'une grande lumière, d'une grande sincérité, très drôle, très fidèle à son entourage aussi. C'est plutôt de ça dont j'ai envie de me rappeler que le dernier concert. Et évidemment, il reste les disques pour perpétuer la mémoire de B.B. King.
C'est la raison pour laquelle nous allons écouter The Thrill Is Gone. The Thrill Is Gone, c'était B.B. King. André Ménard, qu'est-ce qui motive votre décision de programmer un artiste? C'est une émotion, c'est son cachet, c'est sa personnalité?
Le cachet, j'espère, entre en ligne de compte en tout dernier. Non, c'est sûr que en premier, bon, on fonctionne un peu, c'est un peu un cliché de dire des coups de cœur, mais c'est sûr qu'on en a des coups de cœur. Sinon, par les lectures, par l'écoute de la musique, beaucoup sur Internet maintenant, forcément. On nous envoie de la musique. Avant, bon, le rituel était plus compliqué. Il fallait envoyer une cassette ou un CD dans les poches du CD. Maintenant, c'est déposé sur notre bureau tous les matins. Donc, ça facilite la recherche, la découverte ou le contact avec tout le monde. Parfois, on reçoit des propositions directes des artistes. D'autres fois, c'est par les agents. Donc, c'est la somme de toutes ces procédures qui finit par faire une programmation. Comme ça, de Montréal est assez large, assez anthologique, vous devinez que toutes les ressources sont mises à contribution, toutes les façons de faire, mais il y a entre autres de voyager aussi et d'aller voir d'autres festivals. Aussi grand que peut être le Festival de Montréal, on a besoin des autres festivals parfois aussi pour découvrir des artistes ou de nouvelles façons de faire et tout. Ce festival est devenu un festival de référence, mais je me rends beaucoup dans les festivals français. Je suis allé 4 ou 5 fois au Nancy Jazz Pulsation, je suis allé à Jazz à Vienne, je suis allé à Antibes, à Nice, à Coutances, et je retrouve toujours quand même l'esprit des Français face à la musique est assez fascinant. Il y a une grande... ils sont beaucoup en prise sur l'événement et ils aiment beaucoup le live, comme les Montréalais d'ailleurs. Et moi, c'est ce qui pimente ma vie. Je vais voir 300 ou 400 performances par année. À force d'aller dans les festivals, on peut en voir plusieurs dans une journée. Et le reste du temps, je suis sur la rue presque tous les soirs de ma vie. C'est à partir de là que je fais des découvertes. Mais il y a aussi des programmateurs qui travaillent avec nous, qui font des propositions. Je ne connais pas tous les artistes qui jouent sur le site du Festival de Jazz. En salle, pas mal. Mais sur le site, je fais des découvertes en même temps que le public. Et ça m'enchante, quoi. Parce que on voit la réaction du public vers un artiste, comme par exemple la chanteuse Beth Hart, l'an dernier, où j'avais vu Robin McHale aussi à Paris, dans l'hommage à Stax. En septembre dernier, j'étais au Jazz à la Villette. Et je me dis, mon Dieu, mais pourquoi on n'a jamais programmé cette femme, elle est vraiment magique. Donc on a tout de suite suivi avec un agent français, donc on a acheté la performance de cette artiste américaine par un agent français qui me l'a proposé. Vous dites comme quoi, parfois ça prend des détours, mais l'important c'est de pouvoir réaliser le plus de nos rêves possible. Mais c'est sûr que si on disait à tout le monde tout ce qu'on a essayé pour finir avec ce qu'on a obtenu, il comprendrait que parfois programmer, c'est un exercice dans l'art de la déception, du découragement parfois. C'est merde, oh, ça aurait été bien si ça avait marché et tout. Mais la somme, un coup qu'on publie le programme et qu'on dit « Waouh, il y a ça », là, on se rappelle qu'on a quand même fait un beau travail.
Robin McKell, qui a eu du mérite cette année de jouer au Festival Jazz de Montréal parce qu'elle a joué sous la pluie.
Et oui, carrément, c'était la pire journée du festival depuis plusieurs années. Il faisait 15 degrés et la pluie. Et dès le lendemain, on est retourné à 25. C'était comme une espèce d'exception cruelle qu'il y a eu ce soir-là. Mais elle, Castlantienne, elle est vraiment une vraie battante, quoi. Et elle a donné le concert comme s'il y avait 100 000 personnes devant elle.
Et Wayne Shorter. Wayne Shorter, c'était à la Maison Symphonique. Concert assez particulier. Il faut connaître et véritablement rentrer dans la musique de Wayne Shorter. C'est particulier. Est-ce que vous êtes parvenu, justement, à rentrer dans son univers à la Maison Symphonique?
Ben, ça fait quand même assez longtemps que je fréquente la musique de Wayne Shorter pour comprendre. Mais ceux qui partent de l'album qu'il a fait avec Milton Nascimento pour venir au concert, ceux-là peuvent être interpellés un peu. Je crois qu'il pratique, sans dire ça de façon péjorative, un certain hermétisme parfois. Les mélodies ne sont pas toujours évidentes, mais sa maîtrise de son instrument, la sonorité et tout, c'est encore un très très grand musicien, malgré qu'il ait maintenant 81 ou bientôt 82 ans, je pense. Il se produit moins souvent, donc pour nous c'est un privilège. Il fait maintenant peut-être une vingtaine de dates par année. Il faut vraiment qu'il soit motivé pour le faire. Donc j'étais d'autant plus flatté qu'il soit là.
André Ménard, je propose de nous quitter avec Taj Mahal. Est-ce que vous avez un mot à dire sur ce personnage-là?
Oui, j'adore Taj Mahal. On l'a quand même présenté à Montréal peut-être 7 ou 8 fois depuis 40 ans. Et c'est un personnage, c'est un grand personnage. Il vit à Hawaï et il a un métier à Hawaï qui n'est pas celui de bluesman. Il a une agence immobilière. Mais c'est un super musicien. C'est une espèce de... C'est la posture du stentor, quoi. Il a une espèce d'autorité sur ses musiciens, sur le public et tout. Il s'appelle lui-même Maestro dans le communiqué qu'il nous a envoyé. Le Maestro sera bientôt de retour. Donc, il y a une certaine distance aussi, un certain humour lui aussi. Mais c'est avant tout quelqu'un qui a fort bien perpétué un certain aspect du blues. C'est un homme qui est très cultivé aussi, qui sait beaucoup de choses sur la politique dans le monde et tout. Et il a une opinion sur... beaucoup de sujets. À chaque fois que je l'ai rencontré, j'ai eu plaisir aussi à discuter avec lui.
Merci beaucoup, André Ménard, de nous avoir accueillis pour présenter ces émissions depuis Montréal. Et puis peut-être à l'année prochaine.
À l'année prochaine, sûrement. Merci.
I'm getting up soon in the morning. Leave, I dust my broom. Getting up soon in the morning. Leave, I dust my broom. Quit the best girl I've been loving. And my friends can have my room. I don't want no woman. What every downtown man can see. I don't want no woman. What every downtown man can see. She ain't nothing but a no good phony. Shouldn't lie that woman on the street. I'ma write a letter. Telephone every town I know. I'm gonna write a letter. Telephone every town I know. If she ain't down in Chula, Mississippi, she in East Monroe, Arkansas, no. Oh, tell me, baby. Honey, what has been wrong with you? Tell me, baby. Oh, mama, what has been wrong with you? Well, I know you just don't treat poor papa
like you used to do.
Peut-être aurez-vous reconnu Dust My Broom de Elmore James par Taj Mahal en 1973 sur l'album Oh So Good and Blues. Taj Mahal qui fut notre petite déception de cette semaine montréalaise puisqu'il a annulé sa prestation pour prendre du repos. Mais à 73 ans, il faut savoir se ménager des temps de pause dans une vie trépidante sur les routes du blues. Gageons que ce géant de l'épopée des musiques noires retrouvera bientôt toute son énergie pour remonter sur scène et nous offrir le meilleur de sa ferveur afro-blues. C'est sur ces mots d'espoir que nous allons nous quitter. Merci à toute l'équipe du festival de nous avoir accueillis chaleureusement à Montréal. Merci à Médard Chablaoui pour son intervention technique furtive mais essentielle. Enfin, des bises et félicitations à Nathalie Laporte pour son abnégation et sa rigueur. Avant de se quitter, un petit rendez-vous à noter, alors que nous évoquons un festival bien installé, souhaitons bonne chance à un jeune festival français dont la première édition aura lieu du 15 au 19 juillet à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, tout au nord de la France. Et quand on sait que le pianiste et chef d'orchestre Laurent Cuny est l'un des artisans de ce nouveau rendez-vous estival, on se dit que la programmation sera forcément de qualité, avec cette pointe d'audace qui caractérise les grands musiciens de jazz. C'est donc du 15 au 19 juillet à Saint-Omer. J'en profite pour vous rappeler que le 49e Montreux Jazz Festival entame déjà sa deuxième semaine en Suisse avec au programme Lenny Kravitz, Carlos Santana, Jerry Leonide de l'île Maurice, Songroy Blues du Mali, Gilberto Gil et Caetano Veloso du Brésil, Al Jarreau, Herbie Hancock ou encore Somi, la chanteuse américano-rwandaise. Bref, la culture mondiale en Suisse, dont nous nous ferons l'écho bientôt ici même, puisque nous serons sur place incessamment sous peu. La semaine prochaine, direction Bamako, grâce au Paris Jazz Festival qui invite ce week-end les meilleurs représentants de la culture malienne, dont Boubacar Traoré, le World Kora Trio, Songroy Blues et le duo Eric Bibb, Habib Kouaté. Vous entendrez tout ce beau monde dans l'épopée, samedi et dimanche en 8. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.
And my friends can have my room.